Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Excusez le retard, un léger problème de fusion entre deux fichiers informatiques. Et voilà, et on a failli ne pas avoir d'image. Peut-être est-ce leur manière à elles de se venger de la séance de la fois dernière où il n'y avait que du son. Merci à toutes et tous et désolé encore pour ce retard. Le mercredi 15 janvier 1975, à 17h45, Michel Foucault commençait ici la deuxième leçon de son cours au Collège de France, qui sera plus tard publié sous le titre « Les anoromaux ». 2 heures plus tôt, précisément, à 15h45, et je vous demande un petit peu d'attention, une violente détonation se faisait entendre dans le palais de justice de Paris. C'était un attentat à la bombe. Ses commanditaires en avaient alerté l'AFP quelque temps avant. Le but n'était pas de faire des victimes, car la cible était symbolique. Il s'agissait de faire sauter dans la galerie Saint-Louis de la Cour de cassation la statue du roi trônant sous son arbre de justice. L'action fut bientôt revendiquée par le GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, et leur communiqué fut publié le lendemain dans Le Monde, je cite, « en détruisant l'effigie de Saint-Louis, image historique de la justice, entre guillemets, d'État, nous adressons une ferme mise en demeure au gouvernement, complice du franquisme, de rendre immédiatement aux camarades inculpés les possibilités de se défendre politiquement. » Tel est le début de mon enquête. Pour couper court à toute ambiguïté, je m'empresse de dire que Michel Foucault n'y est strictement pour rien. Il avait un alibi, il était ici, même si il n'est pas innocent du tour que prendront ces 3 dernières séances, je l'ai dit, dont j'avais suggéré la semaine dernière qu'elles allaient se laisser dévier par sa réflexion sur les hétérotopies. Mais patience, vous le comprendrez, bien assez tôt. Pour l'instant, penchons-nous patiemment sur les indices, comme les policiers sur ce cliché, même si la photographie est antérieure aux événements funestes dont nous parlons. J'ai appris très récemment que j'avais un ancêtre commissaire de police, alors je ne m'en remets pas. Mais c'est comme dans Blow Up, le film d'Antonioni, les images captent parfois à leur insu, à l'insu en tout cas de ceux qui les font, le danger à venir, et c'est en ce sens qu'elle voit venir le temps. En 1975, le temps est lourd du ciel de traîne de 1968. La gauche prolétarienne s'est dissoute, a renoncé à la violence politique, mais d'autres groupes sont tentés par l'action. C'est le cas des groupes d'action révolutionnaire internationaliste, aussi appelés groupes autonomes d'intervention, créés en Espagne en 1973 et actifs en France à partir de l'année suivante. Franco n'en finit pas de crever, il va mourir le 25 novembre 1975 et le franquisme est entré dans cette phase terminale particulièrement dangereuse, comme le montre Stéphane Michonneau dans son dernier livre. Essentiellement basé au Mirail, à Toulouse, les militants français du GARI réclament d'abord la libération de leurs camarades espagnols, férocement réprimés par le pouvoir franquiste. Voilà ce qu'ils appellent dans leur communiqué, la « justice » entre guillemets d'État. Parmi eux, et Jean-Marie Rouillant, qui va fonder Action Directe en 1978 et témoigner ensuite de cette aventure politique et de ces dérives violentes. Mais en 1975, je l'ai dit, le répertoire d'action des GARI est essentiellement symbolique, comme l'a montré Fanny Bugnon. Si l'on accepte l'enlèvement du directeur parisien de la banque de Bilbao, il vise essentiellement les intérêts espagnols en France, la compagnie Iberia, des autocars de pèlerins espagnols à Lourdes, mais aussi des voitures d'équipe ibérique autour de France pendant l'étape du Tourmalet, et ça, c'est pas bien. Le 5 janvier, il s'était attaqué à une exposition espagnole au musée de la Marine, le 8 au palais de justice de Toulouse, et le 15, c'est Saint-Louis qui prend. Pourquoi lui ? Louis IX avait pour mère Blanche de Castille, mais son lien avec le franquisme n'est apparemment pas immédiat. Encore doit-on toutefois rappeler que l'idéologie franquiste se caractérisait fortement par l'instrumentalisation du passé médiéval et en particulier du thème de la croisade. Ça explique pourquoi les deux dernières pages du Dimanche de Bouvines, le livre de Georges Duby paru en 1973, où il évoquait les dernières résurgences du légendaire de la guerre nationale, évoquait deux discours du généralissime Franco dans lesquels il évoquait le dieu des batailles à l'appui de sa croisade de libération. Ainsi, le 25 juillet 1971, pour la fête de Saint-Jacques de Compostelle, où Franco évoquait la victoire de Brunete de juillet 1937 et proclamait ceci: « La guerre se fait plus facilement quand on a Dieu pour allié. » Et Georges Duby d'achever son livre par cette envolée assez surprenante qui donne une bonne idée, tout de même, de la coloration de ces années politiques, mais qui, à titre personnel, m'intéresse d'abord par l'évocation de ces images du passé qui, je l'ai dit, se rechargent des hantises du présent et manifestent par là leur puissance d'agir. Voilà comment se termine le Dimanche de Bouvines, et je crois franchement qu'on l'a oublié. C'est la dernière page qui rapproche effectivement le légendaire de cette glorieuse journée qui a fait la France, de toutes ces instrumentalisations politiques. Et voilà comment ça se termine. Dieu, celui des holocaustes et des défilés militaires, le dieu de l'ordre rétabli, ce grand cheval blême qui planait sur le champ des morts un soir à Brunete, avait autrefois plané sur Bouvines. Il plane aussi sur Guernica, sur Auschwitz, sur Hiroshima, sur Hanoï et sur tous les hôpitaux après toutes les émeutes. Ce Dieu-là non plus n'est pas prêt de mourir. Il reconnaît toujours les siens. Comment Duby pouvait-il mettre en regard cette journée qui a fait la France, le Dimanche de Bouvines, avec les pires massacres de l'histoire du XXe siècle? Ça a paru longtemps énigmatique, voire scandaleux, à ses lecteurs, comme l'a montré Felipe Brandi. Cette page, d'ailleurs, fut expurgée des traductions espagnoles pendant très longtemps et provoqua l'incompréhension des honorables collègues de Georges Duby, qui trouvaient, comme l'écrivait Bernard Guenet dans son compte-rendu des Annales, qu'à la dernière page du livre, Philippe Auguste est en bien mauvaise compagnie. Mais ce que vise Georges Duby est ici sans conteste la portée potentiellement meurtrière de la nature théologico-politique du pouvoir. De nos jours encore, affirme le médiéviste, l'odeur de l'encens plaît aux chefs, on les voit souvent dans les cathédrales, guettant dans le ciel des signes d'élection. Ils ne répugnent pas à guérir, eux aussi, les écrouelles. Tiens, revoilà au passage Marc Bloch. Bref, aux yeux des militants du Gary, ce qui fait de la statue de Louis IX, le petit-fils du vainqueur de Bouvines, une effigie de la justice d'État, c'est précisément ce rapport entre sacralité et souveraineté. C'est donc bien la question théologico-politique qui est ici engagée et rendue visible par les lieux du pouvoir. Nous sommes donc dans l'ancien palais de la cité, siège du pouvoir royal depuis le Xe siècle, dans lequel les émeutiers conduits par Étienne Marcel avaient fait effraction le 22 février 1358. Ils allèrent jusque dans la chambre du roi égorger Robert de Clermont, maréchal de Normandie, et Jean de Conflans, maréchal de Champagne. Le jeune dauphin Charles avait dû coiffer le bonnet bleu et rouge de la révolte pour avoir la vie sauve. Il en fut traumatisé et le souvenir de cette atteinte au corps du roi par effraction dans sa chambre. On avait parlé de cette question-là à propos de la Castille il y a 3 semaines. Ce souvenir donc, eh bien, décide le transfert de la résidence de Charles V à l'hôtel Saint-Paul, laissant alors toute la place aux institutions de justice qui procèdent alors de la curia regis. C'est ainsi que le Parlement de Paris et les institutions souveraines ont, à partir de ce moment-là, leur palais, qu'on appelle désormais le palais de justice, mais qui demeure en relation monumentale, organique, avec la Sainte-Chapelle, où est conservée la couronne d'épines du Christ que Louis IX y a déposée en 1239. Là se noue un lien théologico-politique qui resserre la sacralité de la justice souveraine. Le tribunal de cassation de 1790, devenu cour de cassation en 1804, est une institution héritière des prérogatives du Parlement de Paris à s'instituer juge du droit. C'est pendant la monarchie de Juillet qu'elle confère l'architecture monumentale qu'on connaît aujourd'hui au bâtiment qui donne sur le quai de l'horloge dans l'alignement de la Conciergerie. L'incendie de la Commune de Paris en 1871 amène ensuite la Cour de cassation à adopter tout un grand programme de patrimonialisation de la mémoire de l'État, d'où l'installation de la galerie des portraits et des bustes au premier et au deuxième étage, mais aussi au rez-de-chaussée de la galerie Saint-Louis, que l'on orne en 1876 de 2 tableaux historiques de Luc-Olivier Merson, Saint-Louis libérant des prisonniers et, on y reviendra, Saint-Louis, malgré les supplications des nobles et des barons, condamnant le sire Enguerrand de Coucy en 1259. Ces 2 tableaux, que je ne vous montre pas parce que là, enfin, je veux bien être tolérant, mais là c'est vraiment trop laid, ces 2 tableaux encadrent aujourd'hui notre statut commandé en 1878 à Eugène Guillaume. Eugène Guillaume, si vous me posez la question, ce n'est pas n'importe qui. Directeur des Beaux-Arts à Paris, puis professeur à Polytechnique, membre de l'Académie des Beaux-Arts, puis de l'Académie française, il est l'un des artistes du Second Empire et de la Troisième République, très régulièrement sollicité par la commande de statuaire public. Il devient en 1882 professeur au Collège de France sur une chaire esthétique et histoire de l'art, mais y enseigne, il faut le dire, assez peu, confiant plutôt sa tâche à son suppléant, parce qu'à cette époque-là, il y avait des suppléants, surtout depuis 1891, où il est nommé directeur de l'Académie de France à Rome, et on ne le voit plus beaucoup à Paris. Mais il est quand même l'auteur de la statue de Claude Bernard devant le Collège de France, ou du moins du bronze original qui a été fondu pendant la guerre, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une copie, ainsi que d'un groupe statuaire que l'administrateur Ernest Renan lui avait commandé en 1890 et sur lequel il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, cette charmante composition où l'on voit le roi François Ier signer le décret de fondation du Collège des lecteurs royaux, assez fortement, vous le voyez, encouragé par sa sœur, Marguerite de Navarre. Il aurait bien aimé la voir au Collège de France. Elle y a été brièvement exposée, mais l'État, qui s'en est porté acquéreur en 1905, l'a confiée, pour une raison que j'ignore, à une commune de Haute-Garonne, Bagnères-sur-Luchon. Et on le voit, donc ça c'est le moment où elle a été peu de temps, je pense, exposée au Collège des France, et maintenant elle est, on peut le dire, sur un rond-point. Et pourquoi pas? Mais dès lors, ce cours peut prendre plusieurs directions, vous allez en convenir. Vais-je prononcer un vibrant plaidoyer pour le retour triomphal à Paris de cette statue lors des cérémonies du 500e anniversaire? Vais-je disserter sur les ronds-points comme lieu d'exposition culturelle et de mobilisation politique? Après tout, dans une géographie contemporaine des lieux de pouvoir, le rond-point, lieu de l'hétérotopie, aurait toute sa place, surtout par rapport à cette logique politique de l'emplacement dont je parlais voici 15 jours. Je ne dis pas que nous n'en reparlerons pas, de cette question des carrefours qui, en ville, font place à ceux qui refusent de se laisser assigner la leur de place. De même, je ne dis pas que je ne vais pas à un moment donné gravir cette montagne, à un moment, vous voyez, un téléski, un télésiège, non pour vous raconter mes premières vacances à la neige à Super Bagnères, hein, tout est lié là encore, mais parce que il y a là matière à évoquer un répertoire naturel des lieux de pouvoir qui fait du sommet, enneigé ou non, la topique de la domination. Bon, là, on n'est pas loin d'être perdu, et je dis non, non, non. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer l'environnement végétal de cette scène historique, depuis ce rond-point, de prendre le parti des arbres qui l'environnent. Car, vous m'avez vu venir, ce qui m'arrête évidemment dans cette scène du légendaire national, Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, c'est le chêne, et en tout cas l'arbre comme lieu de pouvoir. D'où vient ce motif ? D'un témoignage unique, celui du 12e chapitre de l'histoire de Saint-Louis de Jean de Joinville, où l'on lit ceci. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après sa messe et s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et nous, et tous ceux qui y avaient affaire, venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Pour comprendre cette scène, il convient d'abord de rappeler la spécificité du témoignage de Jean de Joinville, sénéchal de Champagne, à qui la reine de France, Jeanne de Navarre, demanda en 1299 d'écrire la biographie du Saint-Roi. À ce moment-là, le roi est saint, il a été canonisé en 1297, et tout est accompli d'une certaine manière. Chacun s'est exprimé, les hagiographes ont fait avancer le dossier. Joinville lui-même a été interrogé par les enquêteurs pontificaux. Donc, d'une certaine manière, c'est le tard venu dans cette histoire. Et tout est exceptionnel dans cette prise de parole historiographique. C'est un laïc qui écrit la vie d'un saint 30 ans après sa mort et 2 ans après sa canonisation, considérant d'ailleurs Louis IX comme un roi saint davantage que comme un saint roi. Tout est donc accompli et il n'a pas à instruire le dossier, il a juste à dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu de celui qui, au fond, est l'homme de sa vie. C'est-à-dire que s'il avait écrit au XIXe siècle, il aurait écrit l'histoire de Saint-Louis par son ami. Il raconte donc la vie d'un homme qu'il a aimé, qu'il a accompagné, qu'il a touché de près, écrit Jacques Le Goff, et avec lequel il a pu avoir des différends, et en particulier lors de la seconde croisade qu'il désapprouve absolument. Le roi est si divers, se désole-t-il sur le bateau qui le mène à cette entreprise désastreuse. Mais rien n'y fait. Au fond, comme l'a écrit Michel Zinc, le moteur de la narration de Joinville, une narration à la première personne, hein, l'incipit de l'histoire de Saint-Louis, c'est « Jean de Joinville », le moteur de cette narration, c'est l'attendrissement. Voilà pourquoi le passage clé dans la description de Louis IX sous son chêne, c'est « il s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui ». Car si l'histoire de Saint-Louis dit « je », elle dit surtout « nous ». Nous qui étions près de lui, nous qui faisions cercle autour de sa parole. Voilà ce qui fait lieu, locus. Et voilà pourquoi cette scène de parole est évidemment déjà empreinte de nostalgie. Pourquoi ? Parce que cette voix aimée s'est tue depuis longtemps, et parce qu'elle est aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, entre 1299 et 1305, au moment où Jean de Joinville rédige son histoire, parce qu'elle est recouverte par le cliquetis de la machine de l'État. Joinville, ancien compagnon d'un roi familier, écrit au temps où Philippe le Bel, nimbé des mystères de l'État, dérobé au regard de ses sujets, apparaît déjà à ses contemporains comme une personnalité inaccessible qui les pétrifie de sa froideur immobile et silencieuse. Lui, il regarde et il se tait. Son ennemi, d'ailleurs, l'évêque de Pamiers, Bernard de Cesset, disait de Philippe le Bel, effrayé, « Ce n'est ni un homme, ni une bête, c'est une statue. » Par contraste, Saint-Louis apparaît dans notre scène comme un roi de justice au naturel, accessible. On dirait aujourd'hui sans filtre. Et c'est ainsi que l'on doit lire sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. On doit le lire en se souvenant de ce que l'on disait des dispositifs palatiaux qui filtrent, qui feintent, qui freinent l'accès du roi. Voilà donc à quoi sert l'arbre dans cette évocation. Le chêne de Vincennes est en tout point l'opposé du palais de la cité dans la mise en scène de l'exercice de la justice. Mais est-on certain qu'il s'agisse bien de rendre la justice ? Je reprends la lecture du passage de Joinville. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après sa messe et s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. On voit la scène, par humilité chrétienne, le roi est assis par terre, entouré de sa cour. Les plaignants viennent le voir, forment un second cercle, mais eux sont debout. Et Joinville poursuit ainsi. Et alors, il leur demandait de sa propre bouche, y a-t-il quelqu'un qui ait sa partie ? Et ceux qui avaient leur partie se levaient. Et alors il disait, taisez-vous tous, et on vous expédiera l'un après l'autre. Et alors, il appelait Monseigneur Pierre de Fontaine et Monseigneur Geoffroy de Villette, et disait à l'un d'eux, expédiez-moi cette partie. Et quand il voyait quelque chose à amender dans les paroles de ceux qui parlaient pour lui ou dans les paroles de ceux qui parlaient pour autrui, lui-même l'amendait de sa bouche. Trois remarques ici. La première est que si Louis IX est bien ce roi de la parole nouvelle, des ordres mendiants, une parole enveloppante et non fulminante, une parole qui trouve son origine dans l'écoute, c'est une parole qui amende, qui corrige, qui admoneste, une parole rectrice de mise en ordre dont le dernier mot est « taisez-vous ». Deuxième remarque, cette justice royale n'est pas encore souveraine. Elle s'inscrit dans un contexte de concurrence des juridictions. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, c'est au justiciable de choisir sa justice, et c'est précisément pour cela qu'elle doit convaincre les sujets qu'ils ont intérêt à avoir recours à cette justice qui leur promet des décisions plus équitables, plus rapides et plus accessibles. Troisième remarque, c'est aussi par sa technicité que s'impose la justice royale, d'où la mention de ces deux personnages, Pierre de Fontaine et Geoffroy de Villette, qui, effectivement, sont bien juges du Parlement de Paris. Il n'y a donc pas lieu d'opposer la machine administrative de l'État au temps de Philippe le Bel et la justice naturelle du roi au temps de Saint-Louis. Louis IX, ici, d'ailleurs, on l'a entendu, ne rend pas la justice. Il sollicite de bouche les plaignants à exprimer leur requête de leur propre bouche. C'est donc bien une scène de parole qui configure ici le locus, le lieu de pouvoir, et ce sont des juristes qui, en sa présence, expédient les parties. Ici donc, l'écrit prend le relais et vraisemblablement le chemin du Parlement de Paris. On ne doit donc pas se laisser égarer par cette scène champêtre. D'ailleurs, les travaux de Pierre-Anne Forcadet ont réévalué la technicité et la modernité des procédures du Parlement de Paris sous le règne de Louis IX, tout en renonçant à faire du premier registre des arrêts rendus par la Cour du Roi en 1254, les fameux olim, l'acte de naissance de l'institution. Non, en fait, les olim, qui ont été largement remaniés postérieurement, ils expriment cette évolution graduelle. C'est au fond en parlementant que les conseillers du roi deviennent des parlementaires. Voilà 30 ans, dans son Saint-Louis, Jacques Le Goff écrivait la vie d'un roi environné de ses miroirs, essentiellement à partir de sources narratives. Depuis lors, l'historiographie a largement retouché ce portrait grâce à une attention plus soutenue aux actes de gouvernement qui avaient été étrangement négligés par l'érudition jusque-là, tant fut longtemps prégnante cette conception d'un Saint-Louis roi de paroles et des récits. Reste que c'est la dynamique propre de ces sources narratives qui explique les aléas de la mémoire de ce motif emblématique de Saint-Louis sous son chêne. Si le Moyen-Âge l'oublie vite, c'est parce que seul Joinville en témoigne et que, en fait, son histoire de Saint-Louis ne connut qu'une très faible diffusion manuscrite. C'est au XVIe siècle qu'il fait sa réapparition et plus nettement encore par sa réécriture par le nain de Tillemont entre 1679 et 1684. Je renvoie sur ce point à un important article de Marie Dejoux, paru en 2020 dans la revue historique du droit français et étranger. Elle y montre notamment que c'est le règne de Louis XIV qui réinvente ce motif souverain. Et sa première représentation iconographique a été découverte par Pierre-Yves Le Pogam. Il s'agit d'un dessin de Charles Lebrun, entré dans les collections du cabinet du roi en 1690, vraisemblablement dessiné en 1690, et probablement exécuté dans le cadre d'un projet d'ornement du dôme des Invalides qui n'a jamais été exécuté. C'est cette image dont s'empare en fait le légendaire national, et notamment depuis le XIXe siècle, dans la propagande monarchiste et catholique, ou dans celle de la Troisième République, qui évidemment rivalise de ferveur pour Saint-Louis. Je vous ai amené du chocolat et du camembert. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais enfin, en tout cas, ce qui va ensemble, c'est Saint-Louis trônant, pas seulement s'accotant au chêne, mais trônant et couronné, c'est-à-dire effectivement cette image souveraine. Et voilà comment l'on en arrive à installer une statue de Louis IX sous son chêne à la Cour de cassation en 1877 et comment un siècle plus tard, les activistes du Gary peuvent y voir, à bon droit, une effigie de la justice d'État. Car en effet, ce qu'il y a de commun à toute cette imagerie, c'est que désormais, et en totale contradiction avec le témoignage de Joinville, le roi, qui s'était contenté de s'accoter sous un chêne et de nous faire asseoir autour de lui, est couronné, trône en majesté sous son chêne. Depuis Louis XIV, précisément, cet arbre symbolise la justice souveraine. Ou plus précisément, elle l'enracine, elle la naturalise. Elle fait de la justice une prérogative organique de la souveraineté nationale. Le chêne, qui se dit rebours en latin, d'où vient notre robuste, devient alors le symbole de cette résistance et de cette vigueur qui caractérise de manière presque intemporelle la souveraineté. Voilà pourquoi, le 21 septembre 1952, l'archevêque de Paris, Mgr Felletin, bénissait le chêne que l'on venait de replanter à Vincennes, à l'endroit supposé du logis de Louis IX. Voilà donc une piste que je vous propose désormais de suivre. Prenons cet arbre au sérieux, et d'abord dans son environnement naturel. Le château de Vincennes, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et notamment le donjon de ce qu'on appelle alors le Petit Chastel, résulte du grand programme architectural de Jean le Bon, Charles V, puis achevé sous Charles VI, et dont on peut suivre les comptes de construction depuis 1361. Ce sont les travaux fameux et classiques de Jean Chapelot. Auparavant, l'architecture du premier manoir capétien, qui est attestée depuis le XIIe siècle, est moins bien connue, mais l'on sait que Louis IX y vient très régulièrement, faisant même de sa résidence de Vincennes un haut lieu de la puissance royale, de sa présence, et comme le satellite privilégié du palais de la cité, cette préférence étant sanctifiée par le don de quelques épines de la couronne de la Sainte-Chapelle. Mais Vincennes, c'est d'abord une forêt royale, que Philippe Auguste a fait ceindre de hauts murs et qu'il a constitué en réserve de gibier. C'est aussi un vivier important qui entraîne de grands aménagements hydrauliques. Ce point est fondamental puisque, comme Jacques Le Goff l'a bien noté, Louis IX est ce roi qui ne chasse pas. C'est ce roi qui se place hors des normes de comportement de l'aristocratie laïque qui sont aussi, on l'a compris en regardant ensemble les très riches heures du duc de Berry, un rituel politique de marquage territorial. En faisant d'une réserve de chasse le lieu d'expression d'une justice pacifique, équitable, et qui ne verse pas le sang, en transformant un espace de domination en scène de parole, et en le faisant, précisait Joinville, en un temps précis, on ne l'a pas remarqué, qui est celui de la célébration liturgique, maintes fois il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après sa messe, Saint-Louis fait œuvre d'hétérotopie. Il fait advenir un espace autre qui retourne la signification première d'un lieu de pouvoir. Difficile pourtant de décrire plus précisément le bois de Vincennes au tournant du XIIIe siècle. L'espace comportait des futaies, des taillis, des prés et des friches en des proportions que l'on peine à identifier. Quant aux essences forestières, si quelques bouleaux apparaissent dans la documentation, les chênes sont, c'est vrai, de loin les plus cités. En 1400, par exemple, le concierge du bois vend 400 chênes provenant de la coupe de Vincennes. Chêne est le nom, vous le savez, vernaculaire de plus de 200 espèces d'arbres et d'arbustes, 600 avec les hybrides, appartenant au genre polymorphique du Quercus, qui lui-même fait partie de la famille des fagacées, celle du hêtre et des châtaigniers. Il y a donc essentiellement en Île-de-France des chênes, alors sessiles, pubescents ou pédiculés, j'en sais rien, mais celui de Vincennes est très probablement effectivement, celui qu'on appelle Quercus robur, le grand chêne blanc de 25 à 35 mètres de haut, la circonférence peut atteindre 5 mètres et qui peuvent avoir 500 ans d'âge, donc qui constitue en plus un petit écosystème que les botanistes appellent un point chaud de la diversité. Alors, qu'en pensent les écureuils, les insectes, les champignons qui y nichent ? Prendre le parti de la diversité des vivants peut mettre sur la voie d'une histoire naturelle des lieux de pouvoir. Et une fois encore, nous voilà ramenés à l'ordre Louis XIVien, car le modèle d'une telle démarche peut être trouvé dans l'Histoire naturelle de Versailles, le livre pionnier que Grégory Quenet fait paraître en 2015, sauf qu'il ne s'agit plus ici de faire visiter les jardins de Louis XIV comme l'on passe en revue les différentes manières d'assujettir le regard du visiteur à une herméneutique de la puissance. Il s'agit de proposer une lecture organique, animale, énergétique, attentive à la police des flux, ainsi de l'immense réseau hydraulique de 200 km de canaux, d'aqueducs, de tuyaux, de pompes, de réservoirs, de chapelets d'étangs jusqu'à la fameuse machine de Marly qui destinée à alimenter les bassins et les fontaines. Et évidemment, ce que montre Grégory Quenet, c'est que l'ambition aménageuse du roi est à interpréter comme une sorte d'absolutisme environnemental, une manière de tyranniser la nature. Là encore, le dispositif synergétique et matriciel, c'est d'abord comme une chasse royale, et ce depuis 1589, que se constitue le Grand Parc de Versailles. Dans cette perspective, d'ailleurs, le pouvoir du roi sur le gibier et sur les grands arbres ne peut susciter que des contestations, des résistances, des contre-conduites, ce qui amène en fait les voyers, l'administration domaniale, à composer avec les communautés paysannes beaucoup plus qu'on le pense, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, et notamment à Windsor, ainsi que l'a montré Edward Thompson. À partir de 1720, les désordres locaux se multiplient, des hommes masqués, qu'on appelle les blacks, tuent les cerfs, molestent les gardes, volent les poissons des étangs, détruisent les clôtures et abattent des arbres. On retrouve ici cette logique du soulèvement évoquée il y a deux semaines dans le cas de Payerne en 1420. En coupant les arbres du verger, on fait advenir un espace autre. On le voit, cette histoire des pouvoirs envisagés depuis le point de vue végétal est indissociablement matériel et symbolique. Comme l'a montré Michel Pastoureau, le bois est dans la pensée médiévale la materia prima, la matière par excellence. Et d'ailleurs, materia désigne d'abord le bois de construction, par opposition au bois de chauffe qui se dit lignum. Il est l'équivalent d'étoffe qui désigne la matière dont est faite les choses les êtres. Ce n'est qu'au XIVe siècle que étoffe se spécialise pour dire la matière du tissu. Mais si le bois est la matière par excellence, c'est une matière vivante, c'est l'étoffe même du vivant. Il vit, croît, meurt, il a sa chair et ses humeurs, in ligno, jacet animalis natura, soutient même Albert le Grand. C'est donc dans le bois qu'on trouve la nature animale. Voici pourquoi une construction en bois n'a jamais au Moyen-Âge le même sens qu'une construction en pierre, surtout parce qu'il faut attendre le XVIe siècle pour que se développe une véritable idéologie lithique. Alors que la manière dont le Moyen-Âge pense les essences forestières est incroyablement riche et contraignante, en fait. Dans une thèse soutenue en 2023 sous le titre « Connaissance des arbres au Moyen-Âge », Alice Laforêt a étudié les traités de botanique et les herbiers médiévaux où l'arbre est défini comme un végétal de haute taille, disposant d'un tronc, de racines, de hautes ramures, s'opposant à l'herbe, justement. Pierre de Cressence compile toute cette encyclopédie au XIVe siècle, tous ces savoirs encyclopédiques, en les organisant, en les hiérarchisant. Et s'il y a des arbres souverains, on parle très souvent d'arbres remarquables, eh bien, il n'y a pas de roi des arbres, comme le lion et le roi des animaux. Donc l'histoire symbolique des essences forestières distingue essentiellement d'abord des arbres funestes et des arbres bénéfiques. Bénéfique est l'amandier, par exemple, le premier à fleurir. On fait de l'huile avec son fruit, et les prédicateurs en font donc un symbole marial. Le plus admiré, c'est sans doute le tilleul, dont on loue la vigueur et la longévité. À Nuremberg, en 1229, un tilleul dont le tronc fait 12 mètres de diamètre devient le symbole de la ville. Et puis comme son grain est très serré et uniforme, comme il est tendre et facile à travailler, eh bien les sculpteurs l'apprécient et font l'essentiel des statues de saints sont en tilleul, sans que l'on sache très bien qui, de ses propriétés physiques ou de ses vertus symboliques, détermine l'autre. En tout cas, c'est le roi de la pharmacopée par sa sève, par ses feuilles, et on en plante justement, devant les maladreries, mais c'est aussi un arbre seigneurial sous les frondaisons duquel se tiennent les assemblées. À l'inverse, l'if est un arbre purement maléfique. S'il est toujours vert, dit-on, c'est parce qu'il a conclu un pacte avec le diable. Son ombre est mortifère, il ne faut surtout pas s'y mettre. Ses fruits, son écorce, son suc toxique. C'est comme ça que Shakespeare empoisonne le père d'Hamlet. Comme ça même, peut-être que Judas s'est suicidé quand il ne se pend pas sous un figuier, autre arbre maléfique. On le plante donc, l'if, dans les cimetières, car il désigne le suicide et le deuil. C'est l'albero della morte en italien, Todesbaum en allemand, et c'est dans son bois souple, résistant, qu'on taille les arcs et les flèches, l'if devenant donc l'arbre qui donne la mort. Et là encore, on ne sait pas d'où, dans quel sens, en fait, cette correspondance doit être comprise. Mais parfois, cette symbolique est ambivalente, en particulier dans le rapport entre l'arbre et le fruit. Le chêne lui-même, il est valorisé en majesté par son tronc, par son port, mais ses glands ne sont pas comestibles par l'homme. Et à l'inverse, c'est évidemment le plus bel exemple, le noyer, qui est un arbre déprécié et funeste, alors que son bois fait la plus belle matière à sculpter, et alors qu'on fait grande consommation de ses fruits, y compris pour broyer du noir, pour faire les pigments des peintres. Et cette ambivalence entre la noix et le noyer dans les systèmes symboliques a donné lieu à une autre belle thèse, celle de Pauline Le Plongeon. Mais si l'on s'intéresse à la fonction de l'arbre comme lieu de pouvoir, c'est peut-être sur l'orme qu'il convient de se pencher tout particulièrement. Dans le paysage agraire, cet arbre de haute futaie est souvent un arbre isolé. C'est pour ça qu'il devient remarquable. Et de là, sa présence dans la toponymie et aussi dans l'anthroponymie de l'orme étant un des noms les plus courants. Parce que sa sève est de couleur rouge. On disait que c'était l'arbre des martyrs, qu'il saignait. Et voilà pourquoi on le plante souvent devant les églises. Le plus célèbre à Paris, c'est l'orme de Saint-Gervais, hein, qu'on voit aujourd'hui devant le très beau monument pour les victimes du 13 novembre. Il est déjà présent sur les plans anciens. En fait, son emplacement est attesté depuis le XIIIe siècle comme justement lieu d'une justice d'arbitrage et d'apaisement. L'expression « attendez-moi sous l'orme », à l'ombre duquel l'on paye ses créances, est devenu ainsi proverbial. Robert Jacob a montré la persistance de cette fonction judiciaire de l'orme comme arbre de justice depuis l'époque druidique des Celtes jusqu'au XVIIe siècle, où certains jugements sont rendus encore sous l'orme. Ainsi est rédigé l'acte. Son utilisation dans les vignes en fait d'ailleurs un arbre recteur, symbole de la norme, de la droiture, et une représentation de Jérôme Bosch en donne une figuration très claire dans une des, c'est celle qui est en haut à gauche, une des cases des sept péchés capitaux, c'est celle de l'avarice. Et vous voyez effectivement le juge avec son livre de droit ouvert devant lui, sur un banc et sous un orme, et avec les plaideurs qui le sollicitent. Et lui qui arbitre, hein, c'est une justice d'arbitrage. Dans son traité des seigneuries de 1608, le jurisconsulte Charles Loiseau, tout à son ambition d'accuser l'arbitraire des justices de village, opposait la porte du roi à l'orme du seigneur. Ainsi, en France, Je le cite, « La justice de la maison du roi s'exerçait à la porte de son palais et s'appelait les plaides de la porte, et il se voit communément que les justices des seigneurs se tiennent à la porte de leur maison, d'ordinaire sous quelque orme qui s'y trouve plantée, pourquoi les juges de village sont communément appelés juges de dessous de l'orme. » Il y a là deux conceptions de l'espace politique et du lieu de pouvoir, mais si l'orme est un arbre seigneurial, il devient aussi un symbole d'identification communautaire, et notamment dans le contexte urbain. Dans un beau livre paru en 2025 sous le titre « I giganti silenziosi », les géants silencieux, l'historien italien Paolo Grillo a proposé un récit des temps médiévaux en 10 arbres, l'olivier, le palmier, ou ces arbres du paganisme que les évangélisateurs abattent à grand fracas de Saint-Patrick en Irlande, Saint-Patrick 17 mars, si ça vous intéresse, à Charlemagne en Frise, en s'arrêtant particulièrement sur l'orme dans le passé du monde communal italien. C'est très fréquemment sous l'ombre de l'orme, de la place, que se réunit l'Assemblée des citoyens pour délibérer, pour prêter serment, et très nombreuses sont les villes d'Italie où l'orme est au cœur de la place civique, au centre de la place civique, et par exemple à Ascoli Piceno, en 1369, la commune décide de replanter sans tarder l'orme devant la cathédrale qu'une tempête soudaine a abattue, sans quoi, précisent les magistrats, le conseil de ville ne pourra se réunir. Ce qui prouve effectivement qu'au-delà de cette architecture dont on fait grand cas, des palais civiques, etc., il y a là des lieux qui paraissent si fondamentaux aux conseillers, parce qu'on pourrait dire bah, c'est ici ou là, qu'on doit les replanter sans tarder lorsqu'un coup de vent les met à bas. Parce qu'il est le plus grand des êtres vivants sur la Terre, parce qu'il s'enracine et fait de l'ombre, parce qu'il domine absolument, tout en nous prodiguant parfois des bienfaits, l'arbre est peut-être le lieu de pouvoir par excellence. Au Moyen-Âge, il en symbolise en tout cas toutes les aspirations et toutes les ivresses. On lit par exemple dans le livre de Daniel que le roi Nabucodonosor, dont le rôle biblique est d'avertir les puissants contre les excès de la démesure et l'abus de pouvoir, rêva un jour d'un arbre qui grandissait si haut qu'il en vint à tutoyer le ciel. Alors, tous les animaux y trouvèrent refuge, ceux qui volaient sous les branches, ceux qui marchaient sous son ombre, même si ici l'enlumineur s'amuse à les percher tous. Un ange est descendu du ciel et a crié, abattez l'arbre et coupez ses branches, mais laissez la souche et ses racines dans le sol et entourez-la de bandes de fer et de cuivre, ajoutant que cette souche était comme un cœur d'homme. Hein, c'est effectivement la matière, mais la matière vivante même pour Moyen-Âge. À son réveil, le roi s'inquiète évidemment de son rêve et Jéhovah lui explique, le grand arbre qui a été abattu, c'est toi. C'est toi, sous-entendu, si tu continues effectivement à croître en ambition et en orgueil. Tu vas perdre ton royaume et tu vas manger de l'herbe comme un animal sauvage. On comprend mieux dès lors de quel bois est fait cette image de l'arbre de justice ou de quelle étoffe symbolique elle se compose, puisque c'est le même mot, et qui dit la matière. On y retrouve évidemment une image de paix, d'équité, de communauté. Mais on n'oublie pas non plus que l'arbre peut être le lieu de l'exécution de la peine et du supplice. Si l'on revient un instant dans la galerie Saint-Louis de la Cour de cassation, on se souvient peut-être que la statue plastiquée par le Gary était encerclée de deux peintures d'histoire de Luc-Olivier Merson, que je ne vous ai pas fait voir, mais dont l'une figure le jugement du sire de Coucy en 1259, dont Louis IX fit le symbole de l'arbitraire seigneurial. C'est que l'arrogant sire de Coucy avait fait pendre sans jugement trois jeunes gens, en fait trois enfants, qui chassaient le lièvre dans ses domaines. Donc tout, d'une certaine manière, se rassemble de la question du gibier, de la réserve, de la puissance, de l'espace forestier. Il les fait pendre sans jugement à ces arbres, et c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement les barons pour s'interposer contre l'ire royale, contre cette colère souveraine de Saint-Louis qui effectivement veut châtier le puissant de cette injustice. À ces arbres, aux pendus, Callot évidemment donnera une image inoubliable, entêtante, à force de baisser le point de perspective de la gravure « Les misères de la guerre », nous obligeant à la fois à nous approcher de l'ivresse de ces détails vertigineux, à baisser la tête également devant le désolant spectacle de ces fruits malheureux, comme fruits malheureux à cet arbre pendu. Et évidemment, on pense à l'inoubliable chanson de Billie Holiday, Strange Fruits, sur les violences raciales dont sont victimes les Africains-Américains dans le sud des États-Unis en 1937. Cet arbre au pendu est évidemment la matrice imaginaire de toutes les architectures de l'exécution des peines qui font spectacle des supplices. Je vous renvoie sur ce point au beau livre récent de Sylvie d'Artagnan sur le pilori au Moyen-Âge, montrant comment cet édifice public, on voit d'ailleurs comment, avec l'échelle, il y a là une première architecture de ce lieu d'exécution, comment le pilori planté au cœur de l'espace de représentation des villes médiévales, dans l'espace français qu'elle étudie, mais aussi partout ailleurs en Europe, résulte du passage du poteau de marché au signe de haute justice. Et dans tous les cas, le pilori est bien symboliquement un arbre artificiel dont l'architecture peut se compliquer jusqu'à échouer au bord de l'irreprésentable, hein, si du gibet de Montfaucon à Paris, qu'on appelait la machine, et qui en était une, en effet, à dépecer les corps et à leur faire pique-pendre. Me suis-je éloigné de mon arbre ? Dois-je chanter désormais avec Brassens « J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain de chêne, mon alter ego » Que nenni ! Car cette ambivalence politique de l'arbre trouve son origine dans le renversement anthropologique chrétien. Comme l'écrit Jacques Dallarin, le bois de la croix est à la fois la charpente et l'écharde des sociétés médiévales. Ça veut dire que la croix, c'est la matière qui architecture ces sociétés, tout en les obligeant à s'identifier à un instrument de torture. Le lieu de la crucifixion du Christ, c'est cet arbre de vie et cet arbre de mort tout à la fois. Selon la légende dorée, Seth, le fils d'Adam, reçut de l'ange qui était le gardien du paradis un rameau de l'arbre par lequel Adam avait péché, cet arbre de la connaissance qui était au centre du jardin d'Éden. Et l'ange lui aurait dit que son père, qui venait de mourir, Adam, son père serait guéri quand ce bois porterait du fruit. Donc cette plante, le rameau sur la tombe d'Adam, le rameau pousse, le rameau devient un arbre, et c'est de cet arbre dont plus tard on fit la croix du Christ qui devait porter le plus étrange de ses fruits, celui qui nous sauve du péché d'Adam. C'est cela que peint le peintre Taddeo Gaddi dans le réfectoire de Santa Croce, où l'on voit bourgeonner de la croix du Christ les arbres de vie, décrits par le franciscain Saint Bonaventure comme lignum vitae. Car l'arbre est, pour nous, le symbole de l'engendrement des connaissances et de la hiérarchie des savoirs par arborescence. Or, Christiane Clapiche-Joubert a montré que cette métaphore végétale ne s'était imposée que tardivement, en tout cas pas avant le XIIe siècle, et qu'elle fut précédée de bien d'autres langages graphiques usant des rinceaux antiques, du corps, de ses humeurs, mais aussi, comme cet extraordinaire extrait du décret de Gratien sur les degrés de consanguinité, de l'architecture. Ainsi dessinait-on des palais de la parenté, où les degrés ne s'abritaient pas sous les ramures des arbres, mais sous les arcades de maisons de famille, bien avant que d'en faire des arbres. Dans ce grand livre dont je parle, intitulé « L'ombre des ancêtres, essai sur l'imaginaire de la parenté », Christiane Clapiche-Joubert, j'ai plus le temps de le montrer, mais démontre que, contrairement à une idée reçue, notre arbre des familles ne résulte pas de l'imaginaire biblique de l'arbre de Jessé, qui visualise ce verset d'Isaïe, « Puis un rameau sortira du tronc de Jessé et un rejeton naîtra de ses racines », mais il vient au contraire de cette pensée figurative de l'arborescence par laquelle, je la cite, « Au Moyen-Âge, on conçoit l'émergence d'une chose à partir d'une autre comme une reproduction, une propagation au sens premier ». Nous parlons donc d'un temps où, jusqu'en 1500-1550, l'on plantait ses arbres au ciel, vivant à l'ombre de ses ancêtres, et d'une certaine manière, c'est ce qui permettait à Dante, lorsqu'il retrouve son aïeul au paradis, Cacciaguida, de s'exclamer « Ô mon feuillage qui m'a réjoui, dans la seule attente, je fus ta racine ». C'est lui la racine, et le feuillage, c'est l'ancêtre. On devait alors lever les yeux pour voir les temps anciens portés à hauteur d'espérance. Puis vint la passion des lignages, puis vient la nécessité des puissants de les enfoncer profondément en terre, et donc il a fallu, en 1500-1550, que nos arbres généalogiques basculent, mettant les vieux au sol et les jeunes poussent dans les feuillages, et ce que l'on nomme enracinement, est une déchéance, hein, puisqu'elle fait chuter l'origine du haut de la ramure jusqu'à l'humilité du sol. Dans La vie des plantes, le philosophe Emanuele Coccia tente de dépasser ce qu'il appelle le chauvinisme animalier pour adopter un point de vue végétal sur le monde. Et il propose effectivement de décrire la plante, non depuis son expression la plus fastueuse, la fleur, ou son fondement le plus solide, le tronc, mais à partir de cette forme paradigmatique de l'ouverture du recommencement qu'est la feuille. Et on comprend effectivement, à le lire, que, et lui-même qui lit des auteurs médiévaux, que cette origine, eh bien, dès lors qu'on la pense depuis le végétal et ce pouvoir de la domination, dès lors qu'on la pense depuis cet arbre, eh bien, lui aussi se renverse. Après tout, au fond, c'est déjà ce que Aristote disait dans le traité de l'âme, l'homme est une plante inverse, car notre tête est une racine plantée dans le ciel. C'est ainsi que Guillaume de Conches, maître de l'école de Chartres, dans son Pragmaticon, où il ressaisit sa pensée sous une forme dialoguée, 1147, commente cette proposition aristotélicienne entre le haut et le bas. Les arbres enfoncent leurs racines, qui est leur tête, vers le bas, dans la terre, d'où ils tirent leur nutrition. L'homme, au contraire, exhibe sa tête, qui est comme sa racine, dans l'air, car il vit de son esprit. L'homme est donc un arbre inverse. Et voici aussi pourquoi cette image nous a accompagnés aujourd'hui pour, vous l'avez compris, nous éloigner d'une conception trop architecturalement figée des lieux de pouvoir. Voilà donc comment il fallait lire le texte de Joinville, moins comme une naturalisation de la justice souveraine du roi qui trouvait à s'enraciner dans la tradition nationale. Cela, c'est le raidissement absolutiste qui en produit l'image, mais comme au sens propre une hétérotopie, la possibilité d'user d'un répertoire de signes pour renverser le sens des lieux. Mais est-on certain d'avoir lu jusqu'au bout ce que ce texte avait de ce point de vue à nous lire, dire ? Reprenons pour terminer notre récit de Joinville. Il se poursuit après la fameuse description du chêne de Vincennes. Je vis quelquefois en été que pour expédier ces gens, ils venaient dans le jardin de Paris, vêtus d'une cotte de camelot, d'un surcot de tyrtaine sans manches, un manteau de taffetas noir autour de son cou. Tout ça, c'est effectivement pour dire l'humilité, très bien peigné et sans coiffe, et un chapeau de pan blanc sur la tête. Et donc pas de couronne. Et ils faisaient étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui. Et tout le peuple qui avait affaire par devant lui se tenait autour de lui debout, et alors il les faisait expédier de la manière que je vous ai dite avant pour le bois de Vincennes. Donc ça veut dire que, je vous en veux pas, mais vous auriez pu m'arrêter avant, depuis le début on se trompe. Ce qui est important, ce n'est pas l'arbre, c'est le tapis. C'est de faire lieu ensemble et de faire en sorte que, contrairement au chêne, le tapis, ça se déplace. On peut aller à Paris avec lui. Bien davantage que l'image du chêne, ce qu'a retenu d'ailleurs la mémoire médiévale, parce qu'elle était caractéristique de ce rapport entre l'humilité du chrétien et l'équité du justicier, comme l'a montré encore une fois Marie de Joux, c'est ce motif du tapis que retient d'ailleurs Boniface VIII dans son sermon de canonisation prononcé le 6 août 1297, lorsqu'il parle de Saint-Louis, maintenant c'est Saint-Louis, justicier. Qu'est-ce qu'il dit, le pape ? L'excellence de sa justice est apparue de manière évidente, non seulement par ses exemples, mais aussi par son comportement. Il installait très souvent son lit de justice à même la terre, sur un tapis, pour entendre les causes, principalement celles des pauvres et des orphelins, et faisait en sorte que leur fût montrée la plénitude de sa justice. Bien plus qu'un vénérable chêne, le tapis se déplace, et avec lui, une certaine idée du jardin. Relisons le texte de Michel Foucault sur les hétérotopies. Quant aux tapis, ils étaient à l'origine des reproductions de jardins. Le jardin, c'est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique. Et le tapis, c'est une sorte de jardin mobile à travers l'espace, avec des tapis, avec des jardins et des miroirs. Peu importe, il convient de se transporter en ville pour aller voir comment on crée des espaces autres. La semaine prochaine, nous suivrons le tapis. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.